Place au débat. À l'initiative du GRIP, le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, quatre journalistes vont partager leurs propres expériences du journalisme de guerre. Parmi eux, trois sont d'anciens grands reporters, avec notamment Colette Breckmann, reporter au journal Le Soir, Jean-Paul Martoz, qui est passé par la rédaction du Soir et de la Libre Belgique, et enfin Josy Dubier, ancien grand reporter à la RTBF. Un autre grand nom du journalisme belge était présent, Jean-Jacques Jespers, ancien journaliste et maintenant professeur à l'ULB. Un débat intitulé « Le journalisme de guerre de Bastion à Raqqa ». Nous retrouvons Martine Cornil au Centre Wallonie-Bruxelles International qui anime le débat.
Aujourd'hui, qu'y a-t-il de plus sérieux à faire que de rendre lisible le monde ? Et c'est avant tout, me semble-t-il aussi, la première vocation d'un journaliste, c'est de rendre lisible le monde. Alors par rapport à cette lisibilité, tous les quatre, vous prenez la parole quand vous le souhaitez, évidemment. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il est plus compliqué aujourd'hui de rendre le monde lisible que ça ne l'était quand vous avez commencé ? Peut-être Colette ?
Oui, c'est-à-dire d'abord, je pense que pour moi, le journalisme, je rends vraiment hommage à ce métier et à ceux qui m'ont engagée. C'est que le journalisme était mon université, c'est là que j'ai appris la vie, le monde tel qu'il était, mais qu'à l'époque, il était peut-être plus simple parce qu'on vous proposait, je ne dis pas que ça correspondait à la réalité, mais on vous proposait des clés de compréhension plus faciles. C'était l'époque de la guerre froide, il y avait les conflits est-ouest, il y avait entre guillemets les bons et les mauvais. Donc on avait des clés relativement simples, et évidemment, il ne fallait pas travailler longtemps pour se rendre compte que la réalité était évidemment beaucoup plus complexe que les mauvais n'étaient peut-être pas ceux auxquels on pouvait penser. Il fallait évidemment nuancer les choses. Mais les clés de compréhension étaient plus faciles. Et même en Belgique, il y avait des conflits sociaux, tout ça, mais c'était plus facile. Aujourd'hui, je pense que ça part un peu de tous les côtés, que cette grille de lecture initiale a totalement disparu. Ce sont des conflits multiformes. Les jeux d'intérêt sont infiniment plus complexes.
Je voyais opiner la tête, Jean-Jacques Jespers. Oui, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui.
Oui, mais pas seulement pour ça. Aussi parce que les conditions de travail des journalistes ont beaucoup changé. Mmh. Il y a de plus en plus de soutiers de l'information qui sont dans des statuts précaires, qui travaillent énormément pour des résultats pas toujours excellents et pour des rémunérations très insuffisantes. Il y a un changement des structures dans les médias qui font que on privilégie de plus en plus l'immédiateté, le flux, parce que, par exemple, il y a énormément de gens qui suivent les informations sur Internet, et donc avec moins de temps pour aller plus loin. Les éditeurs proclament qu'ils donnent la priorité au contenu et la priorité à la qualité de l'information, mais en réalité, tout ce qu'ils mettent en place comme stratégie industrielle, c'est l'inverse. Ça va vers l'immédiateté, le court, la consommation immédiate et la plus gratuite possible. Le modèle économique de la presse est en train de s'effondrer. Donc, et sur Internet, on n'a toujours pas réussi en général à valoriser au maximum le travail journalistique qui devient de plus en plus indispensable par contre. C'est-à-dire que comme il y a énormément de circulation d'informations parasites en horizontal sur les réseaux sociaux, par exemple, de pair à pair, PAIR, le travail du journaliste qui est de vérifier, de valider et de rendre compréhensible le monde est de plus en plus indispensable, mais aussi de plus en plus difficile à exercer. Et donc, c'est vrai que le monde est plus complexe, mais aussi que les conditions de travail du journaliste sont beaucoup plus complexes qu'avant.
Est-ce que ce n'est pas aussi particulièrement vrai dans le cas des journalistes qui s'occupent de l'international ? Est-ce qu'il n'y a pas une tendance aujourd'hui à, sauf en cas de catastrophe majeure, où là ça va faire la une parce qu'on se dit qu'on ne pourra pas passer à côté, à reléguer l'actualité, les informations internationales plutôt à l'arrière dans les pages des quotidiens. Enfin, je dis ça parce qu'il se trouve que j'ai de très bons amis qui sont des journalistes qui étaient, et j'emploie vraiment le passé, de grands reporters qui allaient à l'international, mais quasiment toute l'année, qui notamment, enfin il y en a un notamment qui couvrait l'Amérique latine. Depuis 3 ans, c'est terminé. Ça, il travaille au Morgen, qui est quand même pas un petit quotidien néerlandophone. C'est terminé. Et le mot d'ordre de la rédaction en chef est très clair. Ça n'intéresse pas les gens. Josy Dubié. Ouais.
Écoutez, je crois que j'ai vécu une époque bénie. Soyons clairs. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, Jean-Jacques l'a rappelé, pour beaucoup de raisons. Alors, l'époque bénie que j'ai vécue faisait qu'effectivement, il y avait plusieurs raisons pour lesquelles elle était bénie. D'abord, le direct n'existait pas. Il n'y avait pas de satellite. Donc, il n'est pas question de in situ. Je crois que dans ma carrière, pendant 20 ans, sauf à la fin, parce que il y avait effectivement des possibilités satellites, notamment la chute du mur de Berlin, la chute du régime tchèque, etc. J'ai fait des in situ, mais jusque-là, on n'en faisait pas. On ne se montrait pas, on montrait ce qu'il y avait à montrer, et on avait du temps pour le faire. À la fois du temps sur place, mesuré, mais du temps, et du temps pour montrer les émissions, dans l'émission 9 millions 9, ou je ne sais plus comment s'appelait l'autre, à suivre. On avait parfois 40, 60 minutes pour expliquer quelque chose. On avait le temps d'expliquer les tenants et aboutissants, de faire quelque chose. Aujourd'hui, c'est non seulement plus possible, mais ça n'existe plus. Ça n'existe plus, et bien sûr, je le regrette. Quand vous dites, et quand les rédacteurs en chef disent « ça n'intéresse pas les gens », je suis absolument pas d'accord avec ça. Ça n'intéresse pas les gens parce qu'on leur montre pas des choses qui pourraient les intéresser. Effectivement, mais ça coûte. Ça coûte de l'argent. Et puis, il y a autre chose quand même qu'il faut dire, et je crois que c'est important de le rappeler. Non seulement les techniques ont évolué, mais la manière dont les journalistes sont traités, les journalistes correspondants de guerre sont traités sur le terrain, est tout à fait différente. Quand je dis « je voudrais dire « nous », parce qu'il est clair que tout ce que j'ai fait, je ne l'ai jamais fait seul. Je l'ai fait avec des équipes, avec une équipe, avec un caméraman, avec un preneur de son, et je voudrais ici leur rendre hommage. Parce que j'ai pris « je », « nous ». Quand je dis « je », il faut entendre « nous ». Nous avons pris parfois des risques inouïs. Avec le recul, je me dis que j'ai été cinglé. D'ailleurs, je voudrais lire, j'ai trouvé dans le livre de Jean-Paul, une phrase que je voudrais dire ici, d'un certain, comment s'appelle-t-il, un journaliste, Bill Bufford, qui dit ceci. « Les correspondants de guerre sont parmi les personnes les plus malades que l'on puisse rencontrer. Il y a en effet quelque chose qui nous tourne par rond quand on veut aller là où les gens se font tirer dessus. » C'est vrai que ça a été mon cas avec les équipes que j'ai dirigées. Pour vous donner un simple exemple, en avril 75, quand le régime sud-vietnamien a commencé à s'effondrer, quand du haut plateau, toute l'armée sud-vietnamienne était en retrait, tout le monde foutait le camp, eh bien moi j'y suis allé. Nous avons débarqué avec Main du Bon Mariage et Franz Wenzel, la dernière équipe, dans le dernier avion civil qui a atterri à Tan Son Nhut à Saigon, et nous avons couvert la chute de ce pays. Il faut être fou. Et pourtant, j'y suis allé. On risquait sa peau, on risquait d'être tué, mais on ne risquait pas d'être enlevé, mis dans un cul de basse-fosse et devenir un otage pendant des années, comme certains de mes collègues l'ont malheureusement expérimenté à leurs dépens ces dernières années. Et je dois vous dire que si j'étais prêt à risquer ma peau, je ne suis pas sûr que je serais prêt à accepter de passer des années, comme certains l'ont fait, dans un cul de basse-fosse, en ne sachant pas si on allait être tué ou égorgé le lendemain. Donc les conditions ont fondamentalement changé, et je trouve qu'il faut encore plus de courage aujourd'hui pour faire ce métier que j'ai fait pendant une vingtaine d'années.
Mmh. Il faut être malade pour se rendre là où les gens se font tuer, Colette Brackmann.
Oui, mais je crois que les gens, ils n'y pensent pas, ils y vont d'abord, parce qu'il faut essayer d'y aller. Mais une chose que je voudrais dire, c'est que quand on regarde la carte du monde, malgré le flux d'informations, on a l'impression qu'on est beaucoup plus informé qu'avant. Mais c'est faux. En fait, tout le monde répète la même chose, va dans les mêmes endroits pour de moins en moins longtemps. Il y a des zones grises immenses. Si on regarde la carte du monde, qui aujourd'hui sait exactement ce qui se passe au Sud-Soudan? Qui est allé? Personne. L'Érythrée. On voit arriver des réfugiés, des migrants, des réfugiés qui viennent d'Érythrée. Qui sait ce qui se passe vraiment dans ce pays? Il y a des difficultés d'accès, il y a des dangers, mais il y a aussi le fait qu'il y a peu de chefs de rédaction, de directeurs qui vont investir dans la matérialité d'un voyage, le prix, les risques, le temps que ça prend. Mais je crois qu'on est arrivé, ça c'est mon côté peut-être optimiste, on est un peu arrivé au bout de ce journalisme superficiel, rapide, voilà Coco, tu vas, tu restes 3 jours, tu reviens, tu boucles ton truc, etc. On est arrivé au bout parce que c'est ça que les gens n'intéressent ne sont plus intéressés. Les gens, ils s'en foutent, ces espèces de journalisme de 2-3 jours, comme ça, hit and run, on va et on revient, on peut lire ça partout, il suffit d'aller sur Internet, on retrouve toujours ces mêmes récits, et les gens ne sont pas fous, ils sont fatigués, ça ne les intéresse plus de lire la même chose que ce qu'ils peuvent trouver ailleurs. Et qu'on voit maintenant apparaître ce qu'on appelle la nouvelle tendance, le slow journalisme. Enfin, des gens qui prennent le temps, qui restent longtemps sur place, qui prennent du temps pour aller voir, pour écrire, pour faire des longs papiers. Avant, on disait, ah, un papier plus que 4000 signes, les gens ne veulent pas lire. On a pris les gens beaucoup plus bêtes qu'ils ne sont. 4000 signes, ça n'intéresse plus personne. Ils veulent aller au fond des choses et lire de longs papiers. Et de plus en plus, même maintenant dans la presse quotidienne chez nous et dans la presse internationale, on lit, on découvre de longs textes. Et pour les écrire, il faut avoir passé du temps sur place, ça a coûté de l'argent. Ou bien on s'est débrouillé autrement, mais c'est le slow journalisme, c'est la nouvelle tendance, et je pense que le balancier est en train de... Les choses ont évolué.
Vous dites même dans la presse quotidienne, moi j'en vois pas encore beaucoup, par contre le slow journalisme, effectivement, j'en vois beaucoup dans ce qu'on appelle des niches.
Hein. Colette Brackmann, il y a quelques jours, vient d'écrire un remarquable papier, après avoir passé quelques jours au Nigeria, sur Boko Haram. Alors Boko Haram, effectivement, comme elle dit, tout le monde en parle, personne ne sait ce que c'est. Mm-hmm. Et elle, au moins, a tenté d'expliquer à la fois ce que c'est, mais pourquoi il existe et pourquoi il se développe. Et surtout, je lui ai envoyé un petit SMS pour la féliciter, parce que ce genre d'information est rarissime aujourd'hui. Effectivement, on dit qu'il y a eu 40 morts, ou bien on a enlevé 60 personnes. Mais qui, quoi, pourquoi ? Elle fait ce travail de fond pour expliquer, tenter d'expliquer les choses, et je pense que c'est un travail essentiel. Et je suis assez d'accord avec elle, on voit quand même revenir dans la presse des papiers qui sont un peu plus explicites que simplement la factualisation du nombre de morts, etc. Donc je pense que peut-être, et je peux l'espérer, on va revenir à une autre forme de journalisme, tout en étant conscient des dangers que ces gens prennent pour aller sur le terrain.
Jean-Paul Marthouse.
Est-ce qu'on m'entend comme ça ? Oui. Non, deux choses rapidement. Enfin, moi, je trouve que la situation actuelle du journalisme est en fait idéale. Moi, j'adorerais avoir 20 ans aujourd'hui pour faire du journalisme dans les 40 prochaines années. Contrairement à l'image dépressive qu'on nous donne dans les écoles de journalisme, on est tous condamnés au chômage. Non, moi, je pense qu'il y a un avenir extraordinaire pour le journalisme, dans la mesure même où la situation est de plus en plus compliquée. Quand j'étais jeune journaliste, c'était facile, le décodage était facile. Il y avait le monde libre, le monde communiste, entre guillemets, et il y avait les bons et les mauvais. Moi, ça m'énervait déjà à l'époque, quand j'étais journaliste, je cherchais la complexité là où on me disait qu'il n'y en avait pas. Donc je cherchais chez les sandinistes, qui étaient tous bons, je cherchais les tendances spécifiques pour voir qui, dans le fond, avait tel tout. Je trouvais ça passionnant. Actuellement, moi, je suis de la philosophie de John Simpson, qui est le fameux journaliste de la BBC World Service, qui disait, quand j'étais avec les derniers journalistes, on me disait, écoute, allez, c'est très, très simple, il faut faire simple. Il faut dire, quand je présente une situation compliquée, il faut que je la présente de manière simple. Il n'y a qu'à. Il y a les bons, les mauvais, il n'y a qu'à. Il dit, maintenant, je suis persuadé, après 40 ans de métier, qu'il faut dire exactement le contraire. Il faut dire, c'est pas si simple que ça. Alors, aujourd'hui, les conflits, comme la Syrie, par exemple, sont des conflits extrêmement complexes. Et donc, le rôle du journaliste est de plus en plus important. Et donc, on revient à ce moment-là, à cette nécessité d'un journalisme, pas seulement slow journalisme, mais un journalisme de spécialisation, de connaissance. On a un devoir de connaissance de nouveau. Et quand on voit les investissements actuels dans la presse américaine, celle que je suis le plus, les journaux qui aujourd'hui progressent, ce sont ceux qui ont fait le choix, comme le Washington Post, par exemple, depuis qu'il a été racheté par le patron d'Amazon, c'est d'investir dans des journalistes qui ont vraiment une connaissance de dossier. Et le Washington Post, actuellement, a dépassé le New York Times pour sa consommation en ligne, parce qu'il apporte sur certains sujets. Je vous conseille de le relire. Il était très affaibli ces dernières années. Eh bien, maintenant, ça redevient un journal qui offre réellement quelque chose de très fort, un plus extraordinaire. Et deuxième remarque, je pense qu'il faut penser le journalisme différemment aujourd'hui. C'est-à-dire que le journalisme corporatisé, avec carte de presse estampillée par un comité de commission de la carte, c'est bien. Moi, je ne suis pas contre ça, mais c'est plus possible, peut-être. Et il y a des expériences qui se font aujourd'hui de coopération entre différents secteurs qui offrent des possibilités extraordinaires. Aujourd'hui, lorsque, par exemple, une série de journaux américains se mettent ensemble avec l'école de journalisme de Columbia pour faire une enquête sur Exxon et sur son double langage à propos du changement climatique, eh bien, c'est deux types de coopération qui potentialisent le métier. Ce n'est pas une dégradation du métier, c'est au contraire un enrichissement du métier et un renforcement du journalisme. D'ailleurs, dernière petite remarque, nous, au comité de protection des journalistes, on ne protège plus les journalistes uniquement, on protège les actes de journalisme. Et toute personne qui contribue au flux de l'information, qui commet donc des actes de journalisme, on la protège dans cet acte-là. Donc un blogueur qui, par exemple, n'est pas journaliste, mais qui contribue par la qualité de son information, parce qu'il faut répondre à une crise journalistique, eh bien, on le protège comme un journaliste. Donc on est dans une évolution de la profession aussi, qui répond à cette fragilisation que Jean-Jacques mais aussi Josy ont expliqué. On est dans un état de fragilisation, de précarisation du métier comme tel. Mais je pense que le métier va changer de nature et on va devoir s'adapter au monde tel qu'il est. Et je pense que ce sera, si on le veut, un renforcement du journalisme.
Alors vous êtes enseignant, hein, Jean-Jacques Jespers. J'imagine que vous n'enseignez pas le journalisme à vos étudiants comme il vous a été enseigné. Qu'est-ce qui a changé ?
George Bernard Shaw disait « Celui qui sait le faire, le fait. Celui qui ne sait pas le faire, l'enseigne. »
Ça, c'est dur. Hein. Ça, c'est quand même...
C'est peut-être un peu dur.
Oui, mais... c'est un peu dur.
Non, mais c'est ça pour relativiser la position de l'enseignant, quand même. Ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est effectivement de donner aux étudiants le sentiment que le monde est en train de changer, que les conditions d'exercice du journalisme seront demain différentes de celles qu'elles sont aujourd'hui, et que donc, à la fois, les défis sont plus passionnants, d'une certaine façon, mais sans doute que les situations seront moins faciles, aisées. Moi, quand j'ai quitté l'université, j'étais déjà engagé, j'avais déjà un travail. Donc c'est évidemment pas la situation qui attend en général les gens demain, mais même pas seulement les journalistes, tout le monde. Hein, la société est plus dure, sans doute, et plus difficile qu'avant. Mais en même temps, elle est plus passionnante parce qu'il y a des nouveaux défis. Il y a à assumer, effectivement, d'une certaine forme d'autonomie. On sera moins dans les structures. On sera plus, sans doute, des auto-entrepreneurs, d'une certaine façon. Il faudra prendre son sort en main, faire de la proposition plutôt que d'accepter des choses qui sont décidées ou proposées par ailleurs. Mais il y a des choses qui se mettent en place. Par exemple, en Belgique francophone, il y a un fonds pour le journalisme qui distribue des bourses, qui permet à des journalistes de faire du journalisme d'investigation, en dehors de structures établies, en dehors de rédaction. Donc il y a des nouveaux médias qui se créent. Médor qui vient de recevoir de la part de la firme Mitra une grande campagne publicitaire gratuite.
Ils peuvent les remercier. Hein.
Ils peuvent les remercier. Mmh. Donc voilà, il y a des nouvelles possibilités. Très certainement, comme disait Jean-Paul tout à l'heure, le journaliste devient de plus en plus indispensable parce que le monde est de plus en plus difficile à lire. Et il y a aussi de plus en plus de gens qui sont présents sur le secteur de l'information et qui peuvent certainement y apporter quelque chose. Mais parmi tous ces gens-là, il faut aussi quelqu'un qui peut jouer le rôle de chef de garde, d'aiguilleur, et dire ça, on va le diriger par là, ça, on va le diriger par là, ça, c'est crédible, ça ne l'est pas. Je pense qu'on va vers de plus en plus l'idée d'une sorte de labellisation de l'information, où quelques personnes qui maîtrisent mieux les dossiers pourront donner des indices de crédibilité à l'information qui circule notamment en ligne. Mais c'est une période difficile, et donc je crois que dans l'enseignement aujourd'hui, effectivement, il faut essayer de tenir compte de cette période difficile. Cela dit, quand on voit la situation dans l'université où j'enseigne, il y a eu un petit creux, mais maintenant on s'aperçoit qu'il y a toujours autant d'étudiants qui entament le master en journalisme et qui sont décidés, comme Marine qui est là, à faire le métier avec conviction et avec responsabilité. Mmh.
On a évoqué tout à l'heure, hein, pendant l'exposé de Jean-Paul, la censure d'État, qu'elle soit réelle ou éventuelle. Je vais vous poser la même question à tous les quatre, et on va commencer par vous, Colette Brachmann. Est-ce qu'il y a eu des moments dans votre carrière où vous vous êtes senti censuré, d'où que vienne la censure, d'ailleurs, parce qu'il peut y avoir aussi des censures économiques. Hein. Est-ce que vous vous êtes senti censuré à certains moments? Est-ce que vous avez été censuré?
En tout cas, moi, j'ai toujours été soutenue par le journal. Ça, c'est vraiment c'est la philosophie du soir. J'ai toujours qui a toujours dit on fait confiance aux journalistes, on fait confiance aux reporters qui va sur le terrain et à choisir, on soutient la version ou ce que raconte notre journaliste. Donc à ce point de vue-là, ça, ça donne quand même une grande force. Cela dit, il y a eu, il y a eu d'autres pressions qui existent. Il y a des choses anecdotiques du temps du Zaïre de Mobutu, un ministre belge que je ne nommerai pas, qui me disait « Faites quand même attention, pensez tout de même aux intérêts de la Belgique dans cette affaire. Vous allez finir par nuire aux intérêts de la Belgique. » Je dis « Mais moi, c'est pas mon problème. » Voilà. Mais bon, c'était tout de même une pression. Il y a eu des pressions de certains lobbies, il y a eu des accusations, faut bien le dire, de certains milieux juifs, dès qu'on critiquait la politique d'Israël, on se faisait qualifier d'antisémite pour la moindre chose. Et ça, c'est constant. Et est-ce que c'est une pression? Est-ce que c'est une censure? En tout cas, c'est une écharde, c'est quelque chose qui vous pique et qui vous stimule. Et les responsables du soir pourraient expliquer mieux que moi jusqu'où sont allées ces pressions, y compris sur le plan économique. Donc ça, je pense que c'est une réalité. Je voudrais quand même dire une petite chose par rapport aux propos précédents, c'est que les journalistes aussi s'organisent face au manque de moyens, et que si mon collègue Alain Lallemand était là, il vous parlerait du consortium pour les... Non, il est sorti.
Il est parti.
Pour les journalistes d'investigation, qui est une invention remarquable de journalistes de plusieurs pays qui se sont mis ensemble, qui ont mis ensemble leurs talents, leurs moyens, leur force de frappe pour mener des enquêtes internationales pour révéler les paradis fiscaux, la fraude. Et là, avec un rôle fantastique, il y a des choses qui ont dû être débattues à l'Union européenne et tout ça. Et donc, les journalistes aussi s'organisent pour, en se mettant ensemble, pour décupler leur force de frappe et contrer le manque de moyens individuels.
Mmh. Jean-Paul Marthoz.
La censure...
Moi, la pression. Hein.
Pardon ?
Censure la pression, et ou pression, les deux.
J'ai eu la chance dans ma vie d'être dans des médias où, en général, certainement, c'est le cas le soir, où j'ai jamais eu la moindre pression exercée par la direction ou la rédaction en chef. La seule fois où j'ai été appelé par le rédacteur en chef, c'est lorsqu'il estimait, et il avait raison, que j'avais tendance à oublier un petit peu mon sens critique au début de la révolution du Nicaragua, par exemple, je reconnais. Il m'avait dit « Fais attention à ton petit cœur », c'était Yvan Toussaint, je l'oublierai jamais. Et il m'a appris réellement à faire attention, précisément que je pouvais perdre mon critère de vérité parce que j'estimais que cette révolution, à cette époque-là, après ce qui s'était passé, moi j'avais vécu dans la région, donc j'avais plein d'amis dans ces... j'avais tendance à peut-être un peu oublier mon regard critique. C'est le seul cas d'intervention qui n'était pas d'intervention, qui était de conseil, c'est pas du tout la pression, que j'ai connu réellement. J'ai connu d'autres médias où il y avait, oui, des pressions plus réelles. Le problème, je me demandais, est-ce que les pressions, c'est normal? Le problème, ce qui n'est pas normal, c'est de céder à ces pressions. Mais une chose que je voudrais juste rebondir un peu sur ce que vient dire Colette, et je crois que la censure, comme journaliste, sauf si on travaille pour des associations de journalistes, où là, on a pour mission de défendre un certain nombre de points au niveau légal, par exemple, ça. Mais quand on est journaliste, on oublie très fort, très souvent, que ce qui va déterminer notre liberté va se faire en dehors de notre rédaction, va se faire par des lois qui vont être votées, par des directives de l'Union européenne. Par exemple, aujourd'hui, on est assez heureux, grâce à une campagne menée par les associations de journalistes, dont le CPJ, mais c'est la Fédération européenne des journalistes, on a mené une campagne contre une directive de l'Union européenne sur le secret des affaires, qui aurait empêché les journalistes de pouvoir vraiment travailler en toute liberté sur les grandes entreprises. Et finalement, il y a quelques jours, on estime qu'on a réussi à avoir cette fameuse exemption ou exception journalistique qui devrait nous permettre, nous journalistes, de ne pas être soumis à ce qui, au départ, était présenté comme une volonté de lutter contre l'espionnage industriel ou autre, mais qui allait certainement, si c'était appliqué, foutre en l'air quelque chose comme le consortium international de journalistes d'investigation, parce que LuxLeaks, par exemple, n'aurait pas été possible. Et d'ailleurs, rappelons qu'un journaliste français, Édouard Perrin, est actuellement poursuivi par la justice luxembourgeoise pour être le premier à avoir produit un article qui a donné naissance à la grande enquête menée par le consortium, et dans laquelle le soir était partie prenante. Donc, moi, je conseille à tous les journalistes, mais aussi à tous les citoyens, quand même, de s'interroger sur les lois et aussi sur l'Union européenne, dont on oublie très souvent qu'elle joue un rôle bien plus important que celui qu'on semble lui donner. L'Union européenne, par ses directives en matière audiovisuelle, en matière par exemple la rétention des données ou la présence, joue un rôle important dans le cadre général dans lequel le journalisme s'exerce, et ça l'oublie.
Josie Dubié.
Oui, enfin, au cours de ma carrière d'une vingtaine d'années à l'RTBF, j'ai été soumis à deux cas de tentative de censure. Alors, je vous explique. Et comme par hasard, ça rejoint un peu ce qu'a dit Colette tout à l'heure. J'étais... Je n'ai jamais eu de fonction officielle à la RTBF. Je vous expliquerai d'ailleurs après pourquoi. C'est lié à un problème de censure aussi. Mais j'étais de fait le patron du magazine de reportage, de fait. Et donc c'était moi qui assurais la programmation. Et j'avais vu une émission de CBS fabuleuse sur la fortune de Mobutu. Et j'ai voulu la programmer dans notre magazine. Je ne sais plus si c'est 9 millions 9 ou à suivre. Et j'ai voulu la programmer. J'étais convoqué chez l'administrateur général qui s'appelait Robert Stéphane et qui m'a dit exactement la même chose. Enfin, Josie, est-ce que tu te rends compte? Nous avons des intérêts là-bas, etc. Je dis oui, il y a des intérêts, mais l'intérêt du public, c'est de savoir ce qui se passe et notamment de connaître la fortune de Mobutu. Il a voulu m'interdire et j'ai dit dans ces conditions, je t'offre ma démission. J'ai dit, je démissionne, mais je vais le faire savoir à la presse. Il dit, calme-toi. On va attendre un mois. Et puis, on va la programmer. Je dis, bon, un mois, je veux bien. À 8 jours de la date fatidique, il me reconvoque, il me dit, écoute, j'en ai parlé autour de moi, c'est très inopportun. Je dis, c'est peut-être inopportun pour toi, mais c'est très opportun pour moi et pour le public qui a le droit de savoir. Et je lui recolle ma démission. Il me dit, écoute, on va encadrer ça, parce qu'il faut quand même encadrer. Et on a donc encadré, et on m'a collé une belle-mère. C'est Jacques Buron qui s'appelait ? Joseph Buron qui avait moi j'avais l'étiquette socialiste, lui il avait l'étiquette libérale. On m'a collé une belle-mère, soi-disant, pour essayer. Or, on s'est entendu comme larron en foire, et on a effectivement mis en perspective. On a raconté les massacres de Léopold II, on est reparti de 1885, et on a fait toute l'histoire, c'était terrible, on a vraiment mis en perspective, et on a crevé les plafonds d'écoute. Et donc j'ai appris, tenez-vous bien, si vous avez l'occasion, je ne sais pas si c'est enregistré, à un moment donné, c'est moi qui présentais l'émission, il y avait un débat, on avait invité le fils de Lumumba, enfin, on était en débat, et à un moment donné, on m'apporte un télégramme, c'est le rédacteur en chef Jacques Virendez qui m'apporte un télégramme à folie, je le lis, et il était écrit, le gouvernement zaïrois, c'est encore le Zaïre à l'époque, annonce la suspension des relations diplomatiques avec la Belgique. Je lis ça en direct, je dis, je suppose que s'il est à notre émission, mais nous continuerons l'émission comme si rien n'était. Et on a continué. Et effectivement, j'ai appris plus tard que Mobutu était à Lille et qu'il regardait l'émission, je ne sais pas dans quel hôtel, et que c'est lui qui avait donné cet ordre-là. C'est quand même invraisemblable. Et donc l'émission est passée. Le deuxième cas, ça concerne la Belgique, parce qu'il y a parfois du danger aussi à travailler en Belgique. Au début des années 80, je reçois un coup de téléphone d'un monsieur qui me dit, voilà, monsieur Dubié, je vous connais, vous avez l'air de ne pas avoir froid aux yeux, j'ai des révélations à faire, je voudrais vous parler. Je dis, de quoi s'agit-il? Il me dit, voilà, j'ai été le secrétaire de la section socialiste du parti Molenbeek, et le secrétaire, non, j'étais le trésorier de la section socialiste du parti socialiste à Molenbeek, et secrétaire communal pendant 25 ans. J'ai eu deux infarctus, et je veux mettre ma conscience en ordre, j'ai des choses à vous révéler. On vous dit ça, qu'est-ce que vous faites? Vous y allez. Il habitait boulevard Edmond Martens. Ça ne s'invente pas, parce que c'était justement l'héritage de Martens, le bourgmestre depuis la guerre, qui était un homme corrompu à un point incroyable, et qui était opportunément mort avant de pouvoir être condamné. Le problème, c'est qu'ils étaient 28. Ça va prendre un peu de temps, mais ça vaut la peine de le raconter. Il y avait 28 conseillers communaux socialistes à Molenbeek, une large majorité absolue. Mais sur ces 28, 26 étaient soumis à une enquête du comité supérieur de contrôle pour corruption et autres. Il n'en restait que deux qui ne l'étaient pas. Et donc, pour succéder à Martens, il fallait choisir un de ces deux-là. Il y avait le dernier de la liste, c'était un brave médecin qui travaillait dans la région portuaire, on s'appelle le maritime, le quartier maritime, qui était un brave type, toujours dernier de la liste, qui faisait beaucoup de voix, mais on l'a appelé, on lui a dit, voilà, tu vas devenir bourgmestre. Et moi, je ne veux pas devenir bourgmestre. Tu vas devenir bourgmestre, c'est un ordre. Il s'est assis dans le bureau du bourgmestre, et il a ouvert les armoires, il avait tombé les cadavres, il a ouvert les tiroirs, il a vu des cadavres, il a réuni la section socialiste, il a dit, c'est horrible, on dit, ta gueule, t'es pas là pour ça. Et il a dit, mais dans ce cas, on l'a viré du parti, il s'est retrouvé tout seul, avec l'autre conseiller communal. Bien, mais comme il avait été nommé à l'époque, vous êtes nommé, vous restez là-bas. Et donc, à ce moment-là, le bonhomme me donne tous ces dossiers. Je me dis, ben, là, il y a quelque chose à faire. Et je dis, on avait ce qu'on appelait, je ne sais plus comment ça s'appelait, le pentacéphale. C'était la réunion de tous les chefs de région. On annonçait ce qu'on avait l'intention de faire. Et je dis, voilà, je vais faire un reportage sur ce qui se passe à Molenbeek. Oula. Deux jours plus tard, je suis convoqué chez Van Germay. Je vois encore la scène. Monsieur Dubié, il m'aimait bien, hein, je vous dis, mais Monsieur Dubié, je suis un peu embarrassé, là, j'ai vu, vous voulez vous occuper de Molenbeek. On vous connaissait plus souvent à Saïgon ou au Kenya, mais pourquoi Molenbeek? Et je lui dis, vous savez, monsieur l'administrateur général, voilà, et je lui montre certaines pièces. Ah, il dit, ouf, oulala, oui, effectivement. Bon. Écoutez, qui dit, bon... Écoutez, il me connaissait aussi. Hein. Il dit, bon, écoutez, je veux voir l'émission avant qu'elle ne passe. C'est la seule fois dans ma carrière que ça a été le cas. Et donc, j'ai fait cette émission qui était évidemment terrible. Parce que, faut savoir que quand j'ai commencé à travailler, j'ai vu tout d'un coup, au bal du bourgmestre, qui était organisé par ce brave bourgmestre, il y avait une table où les 26 conseillers communaux socialistes, les pourris, appelons-les comme ça, puisqu'ils étaient tous poursuivis pour corruption, étaient attablés, et on annonce l'arrivée du ministre de la Justice. Un certain Philippe Moureau. Et moi, j'étais là, j'avais demandé à une équipe d'être stand-by, mais je n'avais pas l'intention de filmer. Et quand j'entends l'arrivée, on annonce l'arrivée, et le bourgmestre en titre va pour le saluer, il l'évite et il va s'asseoir à la table de 26 personnes qui étaient ministres de la Justice. J'appelle mon caméraman et on commence à filmer. Philippe Moureau et moi, on se connaît. On a siégé ensemble au conseil d'administration de l'ULB. À un moment donné, il vient me trouver, il me dit, Josie, qu'est-ce que tu fais? Ben, je dis, Philippe, je fais mon métier, hein. Comment ça? Ben, je dis, écoute, tu connais le principe journalistique, hein. Un fait journalistique, c'est pas un homme qui mord un chien qui mord un homme, mais c'est l'homme qui mord un chien. Et je trouve qu'un ministre de la Justice attablé avec 26 corrompus, c'est plutôt un homme qui mord un chien. Une gueule. Voilà. Donc, j'ai reçu des pressions de tous les côtés, j'ai mené mon reportage à fond, et puis on s'est retrouvés, c'est la seule fois de ma vie, je me le vois encore, toute la hiérarchie de la RTBF dans le bureau à côté de Van Germay, qui s'amène, et il avait un tic, vous connaissez ça, les trombones. Quand il était énervé, il prenait un trombone, on était tous là, Conan, Nayar, toute la bande, hein, tout le monde était là, on attendait. Et il s'amène, il s'assied, allez, on y va. Furieux comme ça. Et alors il prend son trombone et l'émission commence. Oh, c'est du bien. Ouais. J'avais appelé l'émission Molenbeek. Ça se termine, je me dis qu'est-ce que je vais prendre. Il se tourne vers moi et dit c'est du bien, le nom, vous ne pouvez pas trouver autre chose. Je dis visa pour le Molenbeek. Très bien, c'est passé tel quel. Donc bravo. Mais quelles ont été les conséquences pour moi? Et ça, je peux vous le dire, parce que j'en ai la preuve. C'est un échevin socialiste qui a été présent là, au bureau politique qui a suivi, Philippe Moureau, qui était vice-président du Parti socialiste et bourgmestre de Molenbeek, a dit à cette réunion, Josie Dubié a trahi, il ne fera jamais promotion. Ce qui était mon cas. Je te parle le plus mauvais, je n'ai jamais fait promotion. Et Van Germay me l'a confirmé des années plus tard, lorsque nous avons pris le train ensemble pour aller à Paris, lorsque je travaillais pour les Nations Unies. Voilà. Donc, j'ai pu faire passer, mais j'en ai payé le prix. Donc la censure a, d'une certaine manière, existé. Le reportage n'a pas été censuré, mais moi, j'en ai payé les conséquences. Et tant mieux, parce que si j'étais devenu directeur, je ne pense pas que j'aurais été aussi heureux que ce que j'ai fait par la suite.
Jean-Jacques Jespers. Pression, censure?
Écoutez, les pressions, ça fait partie de la vie du journaliste. C'est tout à fait normal que les gens qui se sentent inquiets ou qui se sentent visés essayent d'empêcher des choses qui risquent de leur nuire. Il y a eu des tas de tentatives. Il y a malheureusement eu aussi des acquiescements judiciaires à ces tentatives, hein, puisque plusieurs fois des émissions ont été interdites par des juges de référé. Maintenant, ce n'est plus possible, mais ça se fait encore, bien que ce soit illégal. C'est-à-dire que depuis le 29 mars 2011, il y a un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui dit qu'en Belgique, il n'y a aucun texte juridique qui légitime l'intervention préalable d'un juge pour interdire la publication de quoi que ce soit. Soit une émission, soit un article, soit un texte.
Ce qui a été transgressé par ce qui s'est passé avec Médor.
Ce qui a été transgressé par le président du tribunal de première instance de Namur, qui sans doute ne lit jamais la jurisprudence de la Cour des droits de l'homme, et qui donc a commis un acte anticonstitutionnel et illégal, qui a heureusement été réformé par la juge à qui il a donné sa place pour juger du fond, après en audience contradictoire. Donc il y a effectivement des pressions qui ont été efficaces, surtout en référé unilatéral, mais il y a aussi eu des juges qui refusaient de céder à ces pressions et qui donc refusaient d'interdire préalablement des publications ou des émissions. Moi, j'ai jamais été vraiment l'objet de censure ou de pression. Une fois, oui, une fois. Mais c'est pas de la censure, c'est de la politique éditoriale. Donc, c'est ce que je vous y raconte, c'est aussi de la politique éditoriale. Et bon, on peut être d'accord ou pas d'accord, ça se passe à l'intérieur de l'institution. Il y a des rapports de force, il y a éventuellement des pressions qui sont relayées par la hiérarchie de l'institution, mais ça se passe dans un rapport de force interne. La censure, c'est l'intervention de la puissance publique. C'est pas l'intervention du rédacteur en chef ou du directeur.
Qui peut être relayé,
mais qui peut être à ce moment-là, l'effet interne d'une pression. Une seule fois, j'avais fait un reportage sur les territoires occupés, je crois que ça devait être en 75. On était allé dans les territoires occupés par Israël et on avait fait un reportage sur la manière dont se passait l'occupation, dont les relations. Se déroulait entre l'armée d'occupation israélienne et les Palestiniens. Et j'avais fait ce reportage qui devait passer dans le journal télévisé. C'était une page spéciale du journal télévisé. Et j'avais voulu intituler ce reportage « Israël occupant ». Israël en tant qu'occupant. C'était un fait absolument irréfutable. Et la responsable d'édition... La rédactrice en chef adjointe, si vous voulez, a dit « Ah non, ça, c'est pas acceptable, hein, ça, je ne veux absolument pas. Il faut mettre un point d'interrogation. Oh » Voilà. Non, j'ai enlevé le titre. J'ai pas mis de titre. Donc, voilà.
Je voudrais qu'on revienne sur la notion des partenaires que vous évoquiez tout à l'heure, Jean-Paul Marteau, et peut-être un peu l'élargir aussi. Vous disiez qu'il y avait des choses qui se passaient en dehors du cadre strict du journalisme et qu'on pouvait devenir partenaire avec un blogueur, ou qu'il y avait des associations de journalistes qui se faisaient, qui pouvaient contrer du coup aussi cette loi du marché. Et je vais revenir au titre de ce débat, puisqu'on parlait de Bastogne à Raqqa. Il n'y a pas de journaliste aujourd'hui qui puisse exercer son métier en Syrie, me semble-t-il, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors, il y a eu dernièrement Françoise Walmack de la RTBF est partie avec, si je ne me trompe pas, d'Allemagne pour une mission, etc. Mais on sait aussi, enfin, on a lu ici et là pas mal de critiques sur le fait que les reportages qu'elle avait ramenés, c'était des reportages MB, dès que ça n'avait pas été formellement dit. Et moi, je me souviens avoir fait une des dernières émissions que j'ai faites à la RTB dans Samedi Plus. Il était question de la Syrie, c'était il y a 3 ans. Les journalistes n'y avaient déjà plus accès. Et c'était une émission qui était faite avec Médecins Sans Frontières, qui étaient finalement les derniers à pouvoir nous apporter des informations sur ce qui se passait sur le terrain. Quel est aujourd'hui le rapport, justement, c'est là que je veux en venir, entre les journalistes et des ONG qui parfois sont les seuls à pouvoir encore apporter une information dans certaines régions, dans certains pays, sur ce qui s'y passe, et quels sont les modes de confirmation, de vérification qu'ont les journalistes aujourd'hui par rapport à ça? Oui, peut-être, et puis peut-être...
Je suis évidemment entre deux, puisque moi, j'ai longtemps travaillé pour une ONG, Human Rights Watch, qui est une organisation de défense des droits de l'homme, mais qui a une forte dimension d'information. Et donc, je dirais que la question des invitations, c'est autre chose. Je pense que de plus en plus de journalistes dans un certain nombre de médias ne partent que sur invitation. Et donc, dans ce cas-là, soit on a une attitude totalement... puriste, on dit non, on n'accepte pas une invitation parce que ça va compromettre notre liberté, soit on est face à une réalité, on dit on l'accepte parce que c'est la seule manière d'accéder à un pays. Mais dans ce cas-là, les règles doivent être strictes, c'est-à-dire que ce sont les règles journalistiques qui doivent dominer l'acceptation. Et c'est au résultat qu'on voit si ces règles ont été acceptées. Donc ça, c'est une première chose. Je pense qu'il est fondamental que dans les écoles de journalisme, on réfléchisse vraiment à ce phénomène et que dans les cours de déontologie, par exemple, on donne vraiment les paramètres les plus rigoureux pour que chaque journaliste confronté à cela puisse réellement en tirer des leçons. Je pense que c'est fondamental de bien en tirer des leçons. En ce qui concerne finalement la coopération avec les ONG, de nouveau, je pense qu'il faut faire il faut aussi faire la différence entre l'objectif de l'ONG et l'objectif du journaliste. C'est-à-dire que MSF, par exemple, peut avoir une volonté de communication. Alors, dans ce moment-là, le journaliste doit être un peu sur ses gardes quand même. Il n'est pas là pour communiquer pour RSF. Mais MSF, dans sa mission, peut avoir aussi une ambition très légitime et très respectable d'information sur des sujets qui ne sont pas suffisamment couverts. Dans ce cas-là, il y a une passerelle beaucoup plus évidente entre le journaliste et l'ONG. Moi, de nouveau, je suis toujours lié à Human Rights Watch, mais comme dans le conseil d'experts de l'organisation, même si je pense que le travail que fait cette organisation est d'une grande rigueur au niveau de l'information, ça reste une ONG qui a un objectif politique que je défends, plus de ça, légitime, de défendre les droits de l'homme. Mais je pense que le journaliste doit, s'il fait un accord avec ce type d'ONG, il doit toujours se rappeler qu'il est journaliste, qu'il n'est pas au service de l'ONG, qu'il est au service de l'information. Et si on peut, sur certains projets, travailler ensemble en respectant cette logique de l'information et cette intégrité de l'information, je pense qu'on peut faire de bonnes choses. Et moi, personnellement, quand j'étais directeur de l'information à Human Rights Watch, et pas directeur de la communication, de l'information, mon rôle, c'était de veiller à l'intégrité et l'éthique journalistique de la recherche de l'information à Human Rights Watch. Et donc, à ce moment-là, on pouvait, sur base des rapports qu'on faisait, travailler avec certaines organisations. Parce que quand on travaillait sur un sujet comme, par exemple, les ventes d'armes, comme l'a fait récemment Amnesty avec les ventes d'armes en direction du Moyen-Orient, on mettait 3-4 chercheurs pendant 2 ans sur le sujet. Donc, on avait une capacité qu'aucun média n'avait. Et donc, on pouvait apporter à des médias des choses, à condition, et là, c'était une des règles qu'on respectait quand on travaillait avec PBS, par exemple, la télévision publique américaine. Eux avaient le droit de refaire le travail, de vérifier ce qu'on avait fait, nous. Et je crois que c'était comme ça qu'il faut faire les... Je pense qu'on peut travailler vraiment ensemble, mais il faut garder chacun conscience de qui on est et d'où on parle. Si on fait ça, on peut faire des choses qui sont extrêmement intéressantes et on peut potentialiser vraiment le travail d'information. Alors, ce qu'on dira, c'est le journalisme. Certains font du journalisme, d'autres font de l'information dans ce cas-ci. Mais je pense qu'on peut potentialiser et quelque chose.
Mm-hmm. Oui, je sais du bien.
Mais c'est vrai qu'il faut être assez clair quand même. Il y a des cas où on ne peut pas éviter que d'être invité, sinon on ne couvre rien. Et je prends un exemple que j'ai moi-même vécu pendant plusieurs années, c'est le conflit entre l'Irak et l'Iran de 1979 à 1989. J'ai été invité des deux côtés. Ce qui est assez paradoxal, c'est que j'ai été invité des deux côtés. Pourquoi ? Parce que quand je suis arrivé sur place, je n'avais pas le choix. J'avais tout le temps des gars derrière moi, ça c'est clair. J'ai choisi de montrer de manière caricaturale l'image que les deux régimes voulaient avoir d'eux-mêmes. C'est-à-dire, j'ai été comme ils voulaient être, mais en remettant à peine. Et le paradoxe, c'est que alors que les téléspectateurs en Belgique, quand ils ont vu ces deux régimes, à la fois l'Irakien et l'Iranien, avec leurs outrances, ils étaient choqués, mais que les régimes sur place étaient très contents de l'image qu'on avait donnée d'eux. Je donne un exemple. J'étais là, en Irak, au moment du 50e anniversaire de Baba Saddam. Donc, Saddam Hussein, Papa Saddam. Et c'était incroyable. Il y avait vraiment, c'était inouï. On est allé au front, évidemment, avec des soldats, avec des officiers autour de nous. On a pu faire quelques images. Mais l'image que j'ai pu donner de ce régime avec un culte de la personnalité à côté de laquelle celle de Staline allait vraiment de la pipine pour chat était incroyable pour les gens. Un seul exemple. Deux exemples. Il y avait dans le stade, il y avait donc la musique militaire qui tournait et qui jouait Chérie, je t'aime, chérie, je t'aime. Et comment la salle de, et qui jouait ça, et c'était grotesque, tout devenait grotesque. Et une scène dont je me souviens, j'étais avec Roger Beckman, caméraman, j'avais mes deux gardes du corps derrière moi. Et j'avais remarqué que tous les supérieurs, tous les officiers et tous les officiels avaient une montre dont la moitié du cadran était le portrait de Saddam Hussein. Et donc je suis allé dans un quartier où il y avait des horlogers. Et j'ai filmé la devanture où il y avait effectivement des montres avec le cadran de Saddam Hussein. Et je voyais à l'intérieur l'horloger un peu inquiet qui se disait « qu'est-ce qui se passe ?» Et j'avais mes deux gars derrière moi. Et à un moment donné, je dis à Roger « plan séquence, tu me suis ». Et on rentre et j'arrive chez le bonhomme et je dis « bonjour monsieur, do you speak English ?»« Yes, I do ». Et je lui demande « bon ». Et voilà, je lui montre les montres Saddam Hussein. Je dis, est-ce que vous en vendez beaucoup ? Oui, oui, beaucoup, bien sûr. Et pourquoi ? Parce que les gens aiment notre grand président. Et puis je pointe sa main. Il avait une montre. Je dis, mais vous n'en avez pas ? Et le type, yes, of course. Excuse me, yes, of course. But I like so much. Et il met l'autre montre. You see, I like my president. Tout ça est passé à l'antenne. Enfin, c'était inouï, quoi. Donc, tout en... J'ai montré... Si vous voulez, en allant au-delà, pas au-delà, ça s'est passé. Donc il y a moyen d'utiliser quand même dans ces circonstances-là, le journal, de faire du journalisme. C'est ça que je veux dire.
Est-ce que vous savez ce qu'est devenu l'horloger ?
En tout cas, il a eu peur.
Colette Brackmann, est-ce qu'il vous est arrivé d'être dans l'impossibilité de vous rendre sur place pour traiter d'un sujet et donc de devoir, avec ou sans guillemets, vous contenter d'informations qui vous étaient données ? Et de quand même écrire le papier. Et quels sont alors les filtres que vous mettez dans ces cas-là ?
Mais tout le temps. Enfin, il y a parfois des impossibilités de fait dans le cas à l'époque du Zaïre de Mobutu où j'étais interdite de séjour, donc pendant 3-4 ans je ne pouvais pas y aller, je n'avais pas de visa. Voilà. Donc il fallait évidemment reposer sur d'autres sources, mais comme heureusement je connaissais beaucoup de monde dans le pays, des gens mais très divers dans différents milieux, et qu'il y avait aussi en Belgique beaucoup une grande diaspora, donc il y avait tout de même moyen d'avoir beaucoup d'informations sur le pays et donc de contourner ces difficultés. Mais plus récemment, au cours des dernières années, je crois que c'est le cas de beaucoup de journalistes, il y a des régions où on ne va plus parce que il y a un manque de moyens. Bon, je donne deux exemples relativement récents. La Centrafrique, quel est le journal belge qui a envoyé un journaliste faire un reportage sur ce qui se passait vraiment pendant la guerre en Centrafrique. Idem, l'épidémie d'Ebola, qui est allé, avec toutes les précautions d'usage, de santé, etc., faire un reportage sur Ebola. Impossible, pour des raisons matérielles, pour des raisons de prix, d'accès, tout ce que vous voulez. Mais donc, on a dû nécessairement se reposer sur des sources indirectes. Et là, les ONG sont évidemment une source très importante, Médecins sans frontières, parce qu'eux sont sur place. Mais par définition aussi, l'information qu'ils vont vous donner, c'est leur information. C'est une information humanitaire, une information sur ce qu'ils font, sur la situation humanitaire, les morts, les blessés, les dangers d'Ebola. Mais ils ne sont pas là pour faire l'analyse politique, et c'est normal, c'est pas leur boulot.
Mmh. Est-ce qu'il vous est arrivé, à l'un ou l'autre, l'une ou l'autre, de devoir choisir entre donner une info et la sécurité de la personne qui vous l'avait donné. Et je pense notamment à ces fameux fixeurs dont on parle. Là, on est, j'imagine, de temps en temps face à un dilemme moral. Alors, comment se fait le choix ? Informer ou protéger la vie de celui qui vous informe ?
C'est un cas récurrent. Quand on va dans des pays dictatoriaux, je prends l'exemple de l'Argentine des généraux. C'était terrible. J'étais là-bas un an après la prise du pouvoir. Personne ne savait à peu près ce qui se passait là-bas à l'époque. Mais les gens disparaissaient par milliers. Je rappelle qu'il y a eu 20 et 30 000 personnes qui ont disparu corps et bien en Argentine pendant la période dictatoriale. J'étais sur place. J'ai filmé là-bas. J'avais des contacts. Et j'ai rencontré notamment un monsieur qui s'appelait Monsieur Bravo, qui était un syndicaliste, un homme courageux, un syndicaliste de l'éducation, qui a accepté de me parler. J'ai été l'interviewer. Et quand je suis revenu au montage et que j'ai vu ce que ce monsieur m'avait dit, je dis, ça, je ne peux pas passer. C'est pas possible, je ne peux pas passer ça, il va payer. Et donc, je n'ai rien passé. Et j'ai appris quelques jours plus tard, parce que j'avais laissé mes coordonnées à son épouse, que malgré tout, il avait été arrêté. Alors là, j'ai été chez mon rédacteur en chef, qui était Pierre Delroc, Et je dis, Pierre, voilà ce qui se passe. Et là, on l'a passé pour le protéger en disant, voilà ce monsieur, etc., etc. Et il n'a pas disparu. Il est allé en prison, mais il n'a pas disparu. Donc voilà des cas, et j'en ai eu d'autres, où on a un problème. Mais il y a un autre problème. Est-ce que nous, journalistes, avons le droit de décider de ne pas passer des gens qui, eux, sachant les conditions difficiles dans lesquelles ils se trouvent et les risques qu'ils prennent, veulent quand même faire savoir au monde ce qui se passe chez eux? C'est un problème délicat, et j'ai été souvent confronté à ça. Je vous avoue que c'est un cas de conscience. Il m'est arrivé plusieurs fois de ne pas passer des gens parce que j'avais l'impression que c'était trop dangereux pour eux. Donc je me substituais à eux qui étaient prêts à vouloir parler, et je ne l'ai pas fait. Ça m'est arrivé quelques fois.
Mmh. Jean-Jacques, j'espère.
Si vous voulez, peut-être un autre cas.
Jean-Jacques, et puis vous, et puis Jean-Paul Martin. Bon,
c'est une petite anecdote comme ça. Dans les règles et usages du journal Le Monde, qui sont distribués à tous les journalistes, ils indiquent notamment très clairement qu'il faut faire très attention à ses propres données sur son ordinateur, sur son agenda, etc. Donc de ne pas y mentionner des choses qui pourraient être révélées au régime du pays dans lequel on se rend et qui mettraient donc en danger les gens avec lesquels on a été en contact. Et c'est une chose à laquelle il faut évidemment être très très attentif.
Choisis du bien.
Oui, j'aurais un autre exemple. Par exemple, là, j'ai passé l'interview. C'était en 1988. À l'époque, personne ne savait ce qui se passait en Roumanie de Ceaușescu. Et j'y suis allé clandestinement avec une jeune monteuse, auquel, une fois de plus, je veux rendre hommage, Nathalie Pijolet, qui a eu le courage de venir avec moi. Et on a fait un reportage qui s'appelle Le désastre rouge, qui a fait le tour du monde, qui a révélé ce qui se passait en Roumanie de Ceaușescu, grâce notamment au témoignage d'une des rares personnes qui avait osé s'élever contre le régime, Doina Cornea, que j'ai interviewé dans sa cuisine. Après, je vous passe les détails, c'était rocambolesque. Et là aussi, quand je suis revenu, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et finalement, elle décidait de témoigner, et je l'ai passé. Quelques jours plus tard, elle a été arrêtée, elle a disparu. Et là, on a refait. Alors, là, tout le monde, je me souviens même que, comment il s'appelle, là, il était Gérard Depré, qui était président du PSC, il a été courageux, il est allé sur place. Il se fait d'ailleurs taper dessus pour aller voir, j'avais donné les coordonnées. Donc, on l'a quelque part sorti de prison. Donc, cette fois-là. Donc, il faut être prudent, mais dans ce cas-là, elle voulait parler, on l'a laissé parler. C'est très délicat. C'est c'est vraiment un cas de conscience à chaque fois.
C'est un peu la méthode Amnesty International. Donner de la visibilité aux gens, parfois, peut effectivement les sauver. Jean-Paul Martoz.
Une seule remarque, moi, je pense que, finalement, si on voit la manière, notamment dont les télévisions travaillent sur des sujets dans lesquels on pourrait mettre en danger des représentants, à part ceux qui disent clairement, j'ai envie qu'on parle de moi, de ça, moi, je trouve que très souvent, les mesures de sécurité, et j'en ai parlé avec des responsables de télévision, ne sont pas totalement intégrées suffisamment par les équipes. C'est-à-dire que parfois on dit, mais on floute le personnage, on change sa voix. 9 fois sur 10, un service de sécurité peut reconnaître la personne, parce que très souvent, on les place dans des situations où on reconnaît le comportement, l'habillement. Et je pense que là, on doit vraiment faire attention dans les médias. On doit aussi former les journalistes dans les écoles de journalisme à la sécurité. Et Jean-Jacques a signalé un aspect extrêmement crucial actuellement, c'est la sécurisation des communications des journalistes. Pour les gens, pour les sources, pour les protéger, mais aussi pour nous-mêmes. Donc je pense que là, il y a vraiment une prise de conscience à avoir dans l'ensemble de la profession. Je crois que ça commence, mais ce n'est pas suffisant. Mais il est fondamental actuellement de s'interroger sur la manière dont on peut assurer la sécurité des journalistes et la sécurité de leurs sources du début à la fin du processus de reportage. Je crois que c'est fondamental.
Juste une dernière question éventuellement. À l'ère de Twitter, parce qu'on n'a pas encore parlé de ça, des nouvelles technologies, des réseaux sociaux. Or, malheureusement, on voit parfois que certains médias assez important, je veux dire, lance ou balance une information sans même l'avoir vérifiée, parce qu'elle a été reproduite à l'infini quasiment via Twitter ou Facebook. On parlait tout à l'heure du temps long, parce que finalement c'est ça, hein, le slow journalisme, c'est retrouver le temps long, donc le temps aussi de la nuance, et notre époque en manque parfois cruellement pour comprendre les choses. On espère, je suppose tous ici, que c'est le temps long qui va gagner la course par rapport à Twitter. J'aime même d'employer le mot course, mais de quelle manière est-ce que ça a changé, ou est-ce que c'est en train de changer le métier, ça, cette omniprésence de la rapidité, de l'immédiateté, d'une information qui est tout d'un coup en l'espace de quelques heures, qui fait parfois le tour du monde, et qu'on vérifie seulement après coup pour certains? Colette Braeckmann.
Ça s'est imposé. Mais donc, l'info brute, elle fait le tour du monde, mais ça ne dit rien. Je veux dire, c'est un fait. Tout le monde, elle est accessible à tout le monde, sur le téléphone, comme ça. Mais à part ça, qu'est-ce qu'on sait de plus? Donc, c'est à ce moment-là que doit intervenir
le travail du journalisme.
Le travail qui est d'explication, de contextualisation. Le travail commence au moment où l'information est diffusée. On est encore nulle part. Et alors, je voudrais quand même dire aussi, c'est pas parce qu'une. On dit toujours au Congo, c'est pas parce qu'un morceau de bois reste dans l'eau pendant 10 ans que ça devient un crocodile. Eh bien, c'est pas parce qu'une information est diffusée 100 000 fois sur Twitter qu'elle devient une vérité.
Je vais la retirer, elle est magnifique.
C'est la même chose que c'est nécessairement frais.
Quelque chose à dire là-dessus, sur cette omniprésence de l'immédiateté, sur les réseaux sociaux?
Je pense que ça impose d'autant plus aujourd'hui de faire leur travail. Je pense que ce qui est agaçant, par exemple, moi j'ai vu ces derniers temps, notamment lors de la couverture du terrorisme, des gens qui en direct en antenne prennent Twitter et le répètent. Mais non, je pense que le rôle d'un journaliste, c'est réellement d'attendre, de vérifier l'information, au moins de laisser passer un certain temps pour savoir si le tweet qui arrive sur son fil peut être diffusé sur antenne. Il faut rester journaliste. Nous, on a un rôle fondamental qui est précisément de faire cette validation d'information qui ne peut pas s'imposer de la même manière sur les réseaux sociaux, même s'il y a peut-être des règles à imposer. C'est la même chose pour la modération des commentaires dans les médias. Moi, je suis un stalinien, peut-être bien à ce niveau-là, mais je suis extrêmement hostile au forum totalement débridé qu'on laisse défiler dans certains médias, on laisse dire tout et n'importe quoi. Je pense qu'il y a une responsabilité du média, et que quand moi j'étais responsable de la page éditoriale du journal Le Soir, je me souviens qu'on avait une politique extrêmement stricte des lettres. On allait même vérifier si la personne qui envoyait une lettre existait bien. Et puis on regardait sa lettre, et puis on voyait ce qu'on passait de sa lettre, en estimant qu'il fallait qu'on garde une tenue. Et je pense que ces dernières années, on a laissé faire, pour des raisons commerciales, on a laissé faire, et ça a dégradé le débat public. Et une des raisons pour lesquelles le journalisme est dégradé, c'est parce que le journalisme, c'est ce qui l'entoure. C'est les animateurs publics, les amuseurs publics, les forums publics. C'est ça qui dégrade l'image de la presse, bien plus que le comportement réel des journalistes qui méritent ce nom. Et je pense que c'est un élément dont on doit tenir compte.
Jean-Jacques Jespers.
Oui, heureusement, il semblerait qu'il y ait quand même un certain type de réaction de plus en plus dans les rédactions, justement à cause des dérives de l'information en continu et de la nécessité d'être toujours à offrir des contenus nouveaux pour conserver la fidélité du public.
Donc, et pour faire des clics.
Pour faire des clics. Si vous avez vu les couvertures des événements de novembre sur les bonnes chaînes de télévision, on a pris l'habitude de désigner un journaliste de référence, ou une, en l'occurrence c'était plutôt une,
ce qui est quand même Justine Katz.
Oui, Justine Katz, par exemple, sur la première, qui filtre l'info, qui voit effectivement ce qui passe sur les réseaux sociaux, qui voit les communications de la police, etc., et qui en fait à la fois la vérification, la synthèse, et qui décide si c'est opportun ou non, par exemple, de diffuser une information pour ne pas mettre en péril la vie de certaines personnes, ne pas mettre en péril les opérations de police, etc. Donc, là, il y a quand même une certaine responsabilisation qui se manifeste. D'ailleurs, le Conseil de déontologie journalistique a produit un petit bouquin qui s'appelle « Recommandations pour l'information en état d'urgence, en situation d'urgence », dans laquelle on recommande notamment ça, prendre des personnes de référence qui vont aussi, par exemple, être les interfaces entre les forces de l'ordre et la rédaction pour savoir s'il y a des dangers à donner des révélations à certains moments, et où on dit une chose assez fondamentale, c'est pas parce qu'on a une information qu'on doit la diffuser. Et ça, c'est quand même une chose qui doit percoler dans les rédactions, parce que souvent on a tendance à dire dans les rédactions, si on a l'info, on doit la donner. Non, si on a l'info, il faut commencer par la vérifier, commencer par vérifier que c'est opportun de la donner, pas du point de vue de l'intérêt général, mais du point de vue du déroulement des faits. Et donc, on peut être amené à différer la diffusion d'une information.
Mais pour le coup, tout le monde a joué le jeu. Il y a deux week-ends quand les gens...
de ne pas diffuser d'infos, ou d'images, plus exactement, des perquisitions le fameux dimanche soir.
Les chats.
A été librement accepté par les rédactions. Donc, ce n'est pas de la censure, c'est une politique éditoriale. Et sur les forums, c'est vrai, ce que disait Jean-Paul est tout à fait juste, c'est la chose qui a sans doute le plus dégradé l'image de l'info ces dernières années, ce sont les forums. Et ce qui est grave, c'est que maintenant, les journaux, les médias, ferment les forums, mais ouvrent des fanpages sur Facebook, où la modération est encore beaucoup plus difficile parce qu'on ne peut faire que de la modération a posteriori, on ne peut intervenir qu'a posteriori, et où c'est en principe les règles de la société Facebook qui s'appliquent à la mise en ligne de certains commentaires. Et donc, je crois que là, il y a vraiment quelque chose à faire, notamment confier à des journalistes qui respectent leur déontologie le contrôle de ces pages et de ces commentaires.
Vous venez d'écouter Colette Breckmann, Jean-Paul Martoz, Josy Duby et Jean-Jacques Jespers dans la conférence intitulée « Le journalisme de guerre » de Bastion Araka, enregistrée en décembre 2015.